السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: طلب العلم فريضة على كل مسلم. L'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. Ainsi, dès lors qu'une adoration t'est obligatoire, tu as l'obligation d'étudier les règles relatives à celle-ci, afin de pouvoir adorer ton Seigneur comme il te l'a commandé. Aussi, nous sommes dans le mois Mubarak, béni, de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'aide et l'assistance afin de pouvoir de jeûner ses jours, de pouvoir prier ses nuits et lire son livre. Wahuwa as-sami' mujibu ad-da'awat. Ceci étant dit, premièrement, ta'rif al-siyam. Premièrement, quelle est la définition du mot as-siyam, du jeûne? Dans la langue arabe, c'est mutlaqul imsak. C'est le fait de s'abstenir. Le fait de ne pas faire une chose. C'est ça le sens du mot as-siyam dans la langue arabe. C'est s'abstenir de faire une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'histoire de Maryam: Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Dans sourate Maryam, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de jeûner, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, le jeûne qu'elle pratique, c'est le jeûne de la parole, c'est-à-dire s'abstenir de parler. Ça, c'est dans la langue arabe. Quel est le sens du jeûne dans la religion? والتعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Le jeûne en islam, c'est une adoration vouée à Allah, accomplie par une personne spécifique, qui consiste à s'abstenir de faire tout ce qui annule le jeûne, qui consiste à s'abstenir de faire tout ce qui annule le jeûne. Et ce, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne, c'est donc une adoration, avec une intention. Celui qui s'abstient de manger et de boire pour perdre du poids ou simplement pour la santé n'aura pas fait un jeûne dans la religion d'Allah. Mais il aura fait un régime. C'est une adoration. Celui qui jeûne juste par habitude, juste de manière coutumière, celui-ci n'a pas fait un jeûne dans l'islam. Ton jeûne doit être fait pour Allah, parce que tu es un serviteur d'Allah, parce qu'Allah t'a créé pour son adoration. Cette adoration doit être accomplie par une personne spécifique. Il s'agit du mukallaf, celui qui est responsable. Le musulman qui a la raison, na'am, et le discernement. Et le jeûne consiste à s'abstenir de faire des choses qu'on appelle mufattirat ou siyam, comme le fait de manger, de boire et de commercer avec l'épouse. Et ce jeûne-là doit être accompli dans un temps déterminé. Cette intention additionnée à ce délaissement doivent être accomplies dans un temps déterminé, qui est l'apparition de l'aube, donc le fajr, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Voici ce qu'est un jeûne en islam. Deuxièmement, حكم صيام شهر رمضان. Quel est le jugement de jeûner le mois de Ramadan? C'est une obligation. C'est une obligation. Et cela est prouvé par le Coran, par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a également le consensus de la communauté. Quant au Coran, Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il avait été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Dans ce verset, Allah nous dit « Kutiba alaykum ». Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, nous dit, c'est-à-dire, il nous l'a rendu obligatoire. C'est-à-dire, il nous l'a rendu obligatoire. Plus loin dans Sourate al-Baqarah, Allah nous dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque donc témoigne du mois, qu'il le jeûne. Ça, c'est un impératif. Le jeûne du mois de Ramadan, dans le Coran, a donc été rendu obligatoire. Quant à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, nous avons le hadith de Talha ibn Ubaidillah, radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Il nous dit qu'un homme, parmi les gens du Najd, avec les cheveux ébouriffés, est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'entendait parler, mais on ne distinguait pas ses propos. Jusqu'à ce qu'il se soit approché. Et il questionnait au sujet de l'islam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a donc répondu, « Khamsu salawatin fil yawmi wal layla. » Faqal, « Hal alayya ghayruha ?» قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع الحديث. Donc l'homme a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم sur l'islam. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit le jeûne de Ramadan. L'homme lui a répondu, m'incombe-t-il autre chose que cela? Il lui a dit non, sauf si tu veux en faire plus volontairement. Sauf si tu veux en faire plus volontairement. À la fin du hadith, l'homme est parti en disant, Wallahi, la azidu ala hadha wa la anqus. Je jure par Allah que je n'ajouterai rien à cela, ni n'en diminuerai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aflaha in sadaq » Il obtiendra la réussite s'il est véridique. Cet homme, c'est Dhimam ibn Tha'labah. C'est Dhimam ibn Tha'labah. Et la région du Najd, c'est le territoire qui se trouve entre le Hijaz et l'Irak. Le troisième point, manzilatu siyami shahri ramadan fi din. Quelle est la place du jeûne du mois de Ramadan en islam? On a compris que c'était une obligation, mais quelle est sa place? Quel est son rang? Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bouni al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqami salati wa ita'i zakah, wa sawmi ramadana wa hajj al-bayt. » L'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers. Attester qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan, accomplir le pèlerinage à la maison. Le jeûne du mois de Ramadan est donc le quatrième pilier de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan est donc un pilier de l'islam. C'est une adoration extrêmement importante qui vient consolider et faire tenir debout ton édifice, ta religion. Le quatrième point, quelle est la sagesse pour laquelle nous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan? Dans Sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, vous a été enjoint le jeûne, tout comme il a été Vous a été prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété, c'est ça la sagesse. La sagesse pour laquelle le jeûne du mois de Ramadan nous a été rendu obligatoire, ikhwat al-iman, c'est devenir pieux, atteindre la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, ça consiste La piété consiste à adorer Allah en lui obéissant avec science en espérant la récompense, en s'éloignant de sa désobéissance avec science en craignant sa punition. C'est ça la piété. Faire ce qu'Allah t'a ordonné avec science en espérant sa récompense, t'éloigner de ce qu'Allah t'a interdit avec science en craignant sa sentence. أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب وتترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله كما دي طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى Ça, c'est la sagesse principale. Mais en jeûnant, tu as énormément de bénéfices, énormément de profits. Tu éduques ton âme et la purifies. Tu éduques ton âme et la purifies. Durant le mois de Ramadan, tu délaisses des choses qui à la base te sont licites. Le fait de manger, le fait de boire, le fait d'approcher ton épouse, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais durant le mois de Ramadan, volontairement, tu les délaisses, même lorsque tu n'es vu de personne en dehors de ton Seigneur. Celui qui s'entraîne durant un mois complet à délaisser ce qui à la base lui est permis et ce à quoi il est habitué depuis de nombreuses années, à plus forte raison, cet entraînement lui permettra de délaisser ce qui est haram de tout temps, en toute époque, en tout lieu. Durant le mois de Ramadan, il délaisse le haram. Après le mois de Ramadan, il reste sur le chemin de la piété. Il bouleverse sa vie, la réforme. Ainsi, il obtient énormément de bénéfices en jeûnant. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est également une école d'éducation. Ça permet de s'entraîner à faire le bien. Ça permet de s'entraîner à l'endurance, de s'entraîner à la générosité, de s'entraîner à l'empathie, de s'entraîner aux dépenses pour ceux qui sont dans le besoin, s'entraîner à nourrir les gens, s'entraîner à la lecture du Coran, s'entraîner à la course, à l'acheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. En somme, les bienfaits du jeûne sont extrêmement nombreux et ça renforce la communauté, ça l'unit dans une seule et même adoration. Où que les gens soient dans le monde, ils se réunissent sur une adoration pour leur Seigneur, ils se réunissent la nuit à la mosquée pour adorer leur Seigneur. Cela amène l'union, la consolidation des liens et l'entraide dans le bien et la piété. Et une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que j'aime à mentionner, c'est qu'il dit que parmi les sagesses du jeûne, quant au jeûne, que dire de cette sublime adoration qui prive ton âme de ses passions, la faisant ainsi sortir de la ressemblance d'avec les bestiaux pour l'emmener à ressembler aux anges rapprochés. Aux anges rapprochés. Sa parole s'arrête ici du livre Madariju As-Salikin, Rahimahullahu Ta'ala. Cinquièmement, Marahilu fardiyati siyami shahri Ramadan. Les étapes de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan nous a été révélé en une fois ou bien est-ce qu'il y a eu des étapes? La réponse, il y a eu trois étapes. Il y a eu trois étapes. Vous pouvez noter quatre points. Avant cette étape, il y a un point à noter. C'est qu'au début, lorsque le prophète alayhi salam est arrivé à Médine, le jeûne du jour de Araf, le jeûne du jour de Ashura a été rendu obligatoire. Le jeûne du jour de Ashura a été rendu obligatoire. Après cela, son obligation a été abrogée. Et là, il y a eu trois étapes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans Zadul Ma'ad que le jeûne a été prescrit en trois étapes. La première, on a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan tout en laissant le choix au serviteur. La deuxième étape, on a abrogé cela et on a rendu le jeûne obligatoire sans le choix. Sans le choix. Cependant, celui qui s'endormait durant la nuit n'avait plus le droit de manger, de boire et d'approcher son épouse. Jusqu'au maghrib du lendemain. La troisième étape, on a abrogé cela et on a mis le jeûne comme on le connaît de nos jours, c'est-à-dire que les interdictions sont seulement du fajr au Maghrib. Et la nuit, c'est les choses sont permises. Donc, le jeûne du jour de Ashura a été rendu obligatoire dans un premier temps. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam, dit: Ashura était un jour que Quraysh jeûnait dans la Jahiliya, dans la période anti-islamique. C'est pour ça que ceux qui disent quand j'étais dans la Jahiliya, je faisais. C'est une erreur de dire ça de manière absolue. La Jahiliya, elle s'est arrêtée avec l'envoi du prophète alayhi salam en tant que prophète. Tout ce qui est venu après ça, on ne dit pas que c'est une Jahiliya de manière absolue. Mais certaines caractéristiques peuvent être des caractéristiques de la Jahiliya. Donc, prêtez attention à cela, qu'on se corrige et qu'on corrige ceux qui sont autour de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il a jeûné et a ordonné qu'on le jeûne. Et lorsque Ramadan a été prescrit, celui qui voulait le jeûnait. Et celui qui voulait ne le jeûnait pas. C'est-à-dire quand Allah a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, le jour de Ashura est devenu recommandé. Celui qui voulait le jeûnait, celui qui voulait ne le jeûnait pas. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه رواه البخاري ومسلم. Un deuxième hadith dans le recueil d'Imam Muslim selon Jabir ibn Samura رضي الله عنه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de jeûner le jour de Ashura et nous y encourageait. On a donc pris l'habitude de le jeûner. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ رواه مسلم. Et lorsque le mois de Ramadan a été rendu obligatoire, jeûne, et il ne nous l'ordonnait plus. Il ne nous interdisait plus et ne nous rappelait plus cela. Dans le sens où, quand Ashura était très important. Et dans la traduction, j'ai fait une erreur dans le début du hadith. Naam. Il leur rappelait. Taïb. C'était pas l'habitude, le terme, C'était plutôt le rappel et l'importance donnée à cela. At-ta'ahud. Donc, au début, Ashura était obligatoire. Ensuite, ça a été abrogé. La première étape du jeûne de Ramadan, c'est l'ordre, mais avec le choix. Quel est ce choix? Celui qui préfère jeûner, il le jeûne. Celui qui préfère ne pas jeûner, ne jeûne pas. Cependant, fidyatun ta'amu miskin. Il doit donner une compensation en nourrissant un pauvre par jour non jeûné. Allah Azza wa Jal nous dit, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dans sourate Al-Baqarah, quant à ceux qui en ont la capacité, c'est-à-dire et ne jeûnent et préfèrent ne pas jeûner, doivent nourrir un pauvre pour expiation. Doivent nourrir un pauvre pour expiation. À la fin, on nous dit, et de jeûner est meilleur pour vous si vous saviez. Donc, on nous donne le choix en nous orientant vers le jeûne. Ça, c'est la première étape. Salama ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, dit, lorsque ce verset a été révélé, Naam, lorsque ce verset a été révélé, puis il a lu le verset, كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية إلى آخر الحديث. On nous dit, quand ce verset a été révélé, celui qui voulait jeûner, jeûnait, et celui qui ne voulait pas jeûner, nourrissait. Donnait une expiation. Et la sagesse de cela, bien évidemment, c'est التدرج في التشريع. C'est d'avancer graduellement dans la législation et les ordres et les interdits, afin que ce soit plus facile pour le cœur. L'humain n'est pas forcément malléable. Certains ont un cœur doux, d'autres un cœur dur, d'autres des habitudes ancrées et d'autres moins. Allah Azza wa Jal, c'est l'alim ou l'hakim. C'est Ra'ouf ou Rahim. Allah Azza wa Jal, c'est le savant et le sage. Il nous a créés, il nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous. Et c'est aussi le miséricordieux, le compatissant. Donc, il nous a facilité, tout comme il a interdit la consommation de l'alcool, des boissons enivrantes, de manière graduelle, il a fait de même pour le jeûne du mois de Ramadan. Comme l'a expliqué Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala, dans le sharh de Al-Mumti'a. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, détaille ce point dans Zadul Ma'ad et dit, du fait que le jeûne est lourd pour les âmes et les habitudes et les passions, na'am, sont des choses difficiles à délaisser. On a rendu obligatoire le jeûne après la moitié, c'est-à-dire tardivement, en l'an 2 après l'égir du prophète alayhi salatu wassalam. Quand est-ce que? Lorsque l'âme a adopté le tawhid, la prière, les ordres, le Qur'an, à ce moment-là, on a avancé graduellement. Le prophète est décédé en ayant jeûné 9 ramadanat. En ayant jeûné 9 ramadanat. Sallallahu alayhi wa sallam. La troisième étape, c'est celui qui a la capacité a l'obligation de jeûner et on a enlevé ce choix. Par la révélation du verset dont le passage témoin est, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui donc désormais qui témoigne du mois qu'il le jeûne. Là, on a enlevé le choix. Comme on l'a vu dans le hadith de Salama ibn al-Aqwa. Quand ce verset a été révélé, le choix a été enlevé dans Sahih Muslim. La dernière étape, la troisième, c'est que avant, la permission qu'on connaît de nos jours de nuit n'était pas effective. C'est-à-dire que celui qui s'endormait après le maghrib, avant le fajr, n'avait plus le droit aux interdits de la journée. Manger, boire, son épouse, ainsi de suite. Jusqu'au lendemain au maghrib. Al-Bara, radiallahu anhu, nous dit que les compagnons de Mohammed, alayhi salat wa salam, lorsqu'un homme jeûnait, on lui apportait son iftar, et s'il s'endormait avant, il ne mangeait pas jusqu'à la nuit suivante. Jusqu'à la nuit suivante. Et Qais ibn Sarmata al-Ansari, radiallahu anhu, jeûnait un jour. Arrivé à l'heure de la rupture, il s'est rendu à son épouse et lui a dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Elle a répondu « Non. » Mais elle est partie rechercher cela. Et c'est un jour, il avait travaillé. Ses yeux, yani il s'est endormi. À son retour, son épouse l'a vu. Elle a dit « Quel malheur !» Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu endormi, elle a eu de la pitié pour lui, elle a su qu'il n'allait pas manger jusqu'au lendemain la nuit, alors qu'il a travaillé ainsi de suite. Arrivé à la moitié de la journée, Rushia alay, il s'est évanoui. Cela a été mentionné au prophète, alayhi salatu wassalam. Allah, tabaraka wa ta'ala, tout miséricordieux a révélé, Uhilla lakum laylata siyam irrathatu ila nisaikum. Allah a révélé, on vous a rendu licite le fait d'approcher vos épouses durant la nuit. Fafarihu biha farahan shadida. Les compagnons se sont donc réjouis fortement. Allah a révélé, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, rapporté par Al-Bukhari. Il a également révélé, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire le fajr. C'est ainsi, ikhwat al-iman, que les étapes du jeûne nous sont venues. Et de cela, il y a une très grande sagesse que doit adopter le savant, le prédicateur, le parent, l'éducateur. C'est que lorsque les gens sont nouveaux dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'ils avaient des mauvaises habitudes, il faut avancer graduellement avec eux et faire preuve de sagesse. Et la base, c'est la douceur. Et lorsqu'il y a une nécessité, la rigueur. Le tout compose la sagesse. Et c'est ainsi qu'on va réussir à délier les âmes de l'assujettissement au shaitan, aux passions, aux mauvaises habitudes et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Et on voit la perfection de cet islam, la perfection de cette législation. Et le défaut n'est pas dans notre islam. Le défaut est sur nos personnes. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à faire aimer ce din aux gens et à les tirer vers la vérité. Passons au sixième point. Shurut wujub siyam. Tu as compris, cher frère, cher croyant, ce qu'était le jeûne, son jugement et sa place en islam. Tu as compris les étapes, ou plutôt la sagesse pour laquelle a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que les trois étapes par lesquelles sont passés les compagnons dans la prescription du jeûne. Maintenant, il te faut savoir, est-ce que toi, tu es concerné par cette obligation? Ce qu'on appelle « shurut wujub siyam », les conditions de l'obligation du jeûne. Ceci est une science extrêmement importante, car il se peut que le jeune homme ou la jeune fille soit dans l'obligation de jeûner et se pense dispensé. Il se peut que la personne n'ait pas le droit de jeûner. Alors qu'elle jeûne. Donc c'est une science extrêmement importante. Barakallahu fikum. Les conditions d'obligation du jeûne sont au nombre de 6. El-Islam, être musulman. El-Aql, avoir la raison. El-Boulour, être pubère. El-Qudra, la capacité. El-Iqama, être résident. Wal-Khulou min al-Mawani', L'absence d'empêchement. Comme pour les femmes, les menstrues et les loshi. Premièrement, l'islam, être musulman. C'est-à-dire celui qui est kafir, celui qui n'est pas musulman, son jeûne n'est pas valable. Par contre, s'il se convertit à l'islam, on ne lui ordonne pas de rattraper les années précédentes. Mais il commence dès lors qu'il se convertit à l'islam. Deuxièmement, l'aql, la raison. Ça exclut celui qui est atteint de folie. Il n'a pas l'obligation de jeûner et s'il jeûne, ça n'est pas valable parce qu'il n'a pas l'intention. Par contre, celui qui a la raison la plupart du temps lui dit de jeûner. Et lorsqu'il ne l'a pas, il sera excusé. La condition suivante, el-boulour, la puberté. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas l'obligation de jeûner, même si on l'y habitue. Et les signes de la puberté sont au nombre de quatre, trois pour l'ensemble, un quatrième pour les jeunes filles. Dès lors qu'une personne voit un de ces signes, il est pubère. Et ça, c'est une science obligatoire pour les hommes, pour les femmes, pour les parents. Naam. Et il faut faire connaître cela aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Barakallahu fikum. Premièrement, le fait d'atteindre 15 ans. Premièrement, le fait d'atteindre 15 ans. Celui qui complète cet âge-là est pubère, qu'il ait vu les autres signes ou non, qu'il ait vu les autres signes ou non, il est pubère. Il est pubère. Le deuxième signe, al-ihtilam, c'est le fait d'avoir le liquide reproducteur qui sort, el-mani, le sperme, celui. Et ils ont appelé ça l'ihtilam parce qu'en général, ça sort durant le sommeil, la première fois. La personne qui a ce liquide-là, il devient pubère. La personne qui a ce liquide-là, blanchâtre, il devient pubère. Le troisième signe, c'est l'apparition des poils du pubis. L'apparition des poils du pubis. Naam, des poils qui, et allez, ensuite, il faut distinguer, il y a deux types de poils. Là n'est pas, et on ne va pas entrer ici dans le détail. Pour les jeunes filles, on ajoute un signe, qui est l'apparition des menstrues. L'apparition des menstrues. Ainsi, celui qui n'est pas pubère n'a pas l'obligation de jeûner. Et celui qui est pubère, quel que soit son âge, a l'obligation de jeûner. La condition suivante, c'est al-qudra, la capacité, c'est-à-dire la capacité de jeûner. La capacité de jeûner. Celui qui est incapable se divise en deux. Celui qui est incapable se divise en deux. Il y a celui qui a une incapacité absolue et celui qui a une incapacité passagère. Que fait celui qui a une incapacité absolue? La personne qui est âgée qui ne peut plus jeûner? La personne qui a une maladie durable qui ne peut s'allier avec le jeûne? Ces gens-là doivent nourrir un pauvre par jour non jeûné. Sauf si la personne âgée perd la raison. Alors là, même le nourrir de pauvres ne lui est plus obligatoire. Donc je répète, ces gens-là doivent nourrir un pauvre par jour non jeûnant. Un repas rassasiant, naam, ou un demi-sa'a par personne. Taïm. Qu'en est-il de celui qui a une incapacité passagère, comme le malade, comme celui qui prend un traitement, et ainsi de suite. Ces derniers, c'est très simple. Celui qui est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre de jours égal c'est-à-dire dans le cas où il a rompu son jeûne. Donc ces gens-là, soit la maladie les empêche de jeûner, soit aggrave leur maladie, le jeûne aggrave leur maladie, soit le jeûne repousse leur guérison, soit il les amène dans une difficulté hors du commun. Dans ces trois cas, ils rompent le jeûne. Quels sont ces trois cas? Le jeûne est un danger pour lui. Le jeûne aggrave sa maladie. Le jeûne repousse sa maladie. On peut ajouter un quatrième cas que les savants mentionnent, c'est la difficulté qui sort du commun. Parce que la difficulté, elle est présente pour tout le monde. Mais il y a une difficulté qui sort du commun à cause de sa maladie. Dans ces quatre cas-là, ils rompent le jeûne. Ça peut être obligatoire, ça peut être recommandé. El-Iqama, le fait d'être résident. Le voyageur a la permission de rompre le jeûne. Le voyageur a la permission de rompre le jeûne. S'il veut, il rompt son jeûne. Quelle que soit la difficulté ou la facilité de son jeûne. Tant que ça ne le met pas en danger, il peut jeûner un voyage. Mais si ça lui apporte un réel mal, il se doit de rompre son jeûne. Rosselem a dit que ça ne fait pas partie de la piété de jeûner dans ces conditions. Quel est le mieux pour lui? Quel est le mieux pour lui? Si ça lui est égal, le mieux pour lui, c'est de jeûner. Comme ça, il aura jeûné dans le mois de Ramadan, le mois béni. Il n'aura pas attrapé dans un autre mois. Il aura jeûné avec la communauté. Et ça sera plus facile pour lui. Enfin, il se sera déchargé de son obligation. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans le cas où le jeûne lui est plus difficile, c'est mieux de rompre le jeûne et de rattraper en dehors. Dans le cas où ça lui est facilité, c'est mieux qu'il jeûne et c'est mieux qu'il ne rompt pas le jeûne. Voici les trois situations. Et personne n'a le droit de blâmer un autre, comme c'était le cas chez les compagnons. Certains jeûnaient, certains ne jeûnaient pas et personne ne blâmait un autre. Barakallahu fikum. Dans un cas, il n'aura pas le droit de prendre cette facilité, si dans le cas où il voyage pour faire le haram. L'objet de son voyage, c'est de faire du haram. Il voyage pour aller solder un commerce haram. Il voyage pour aller faire du haram. Il voyage dans un pays pour aller faire du haram. Là, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Il n'a pas le droit d'approcher son épouse et ainsi de suite. Alors que celui qui voyage pour une chose permise ou recommandée, il peut prendre les permissions du voyageur. Même si durant le voyage, il tombe dans un péché, parce que ce n'est pas le but de son voyage. Barakallahu fikoum. Il nous reste la dernière condition d'obligation, c'est l'absence d'empêchement. C'est-à-dire que lorsque la femme a ses menstrues ou ses loshis, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner, cependant elle devra rattraper. Cependant elle devra rattraper. Une femme est venu voir Aïcha radiallahu anha, il lui a dit, comment se fait-il que nous, les femmes, devons rattraper le jeûne et pas les prières? Aïcha lui a dit, est-ce que tu fais partie de la secte de l'Haruriya? C'est-à-dire les Khawarij, ce qu'ils exagèrent dans la religion? Elle a dit, non, juste je pose la question. Elle lui a dit, cela nous atteignait au temps du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les menstrues. On nous ordonnait de rattraper le jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper les prières. C'est-à-dire, c'est une soumission, c'est une législation. Barakallahu fikum. Donc voici les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Les obligations du jeûne du mois de Ramadan. Taïeb. Le septième point, shurutu siha. Non pas les conditions d'obligation du jeûne, mais les conditions d'authenticité du jeûne. C'est-à-dire, s'il jeûne, son jeûne sera valable. Mais c'est pas forcément obligatoire pour lui. C'est ça, la question. Les conditions d'obligation, l'islam, être musulman, les conditions d'authenticité. Être musulman, avoir la raison, et là on ne va pas dire la puberté, on va dire être tamyiz. Le discernement, atteindre le discernement, 7 ans. Tabiitu niyyati min al-layl, mettre l'intention durant la nuit, avant le début de Ramadan. avant le début du jour de Ramadan. Et l'absence d'empêchement, c'est-à-dire les menstrues ou les hoches. Ça fait donc cinq conditions d'authenticité. Être musulman, avoir la raison, atteindre l'âge du discernement, c'est-à-dire 7 ans révolus. 7 ans révolus. Ou bien, comprendre. L'enfant qui comprend ce qu'on lui dit, il est capable de répondre. Et il distingue entre le bien et le mal, l'utile et le nocif. Donc, lui, on dit qu'il atteint le discernement. Il peut jeûner et son jeûne est valable. Cependant, l'enfant qu'on fait jeûner, c'est celui qui est capable de supporter. Les compagnons faisaient jeûner leurs enfants et leur donnaient, quand c'était difficile, un jouet pour les faire patienter. Donc, les enfants sont entraînés au jeûne. Ainsi, lorsqu'ils grandissent, ça leur est beaucoup plus facilité. Barakallahu fikoum. Concernant le fait de mettre l'intention dans la nuit, il s'agit d'une seule intention obligatoire avant le fajr du premier jour de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit man lam yujmi' ou bien man lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyam lah. Celui qui ne met pas l'intention de jeûner durant la nuit n'a pas de jeûne, apporté par An-Nasa'i. Dans la version de Tirmidhi, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Celui qui n'a pas mis l'intention de jeûner avant le fajr n'a pas de jeûne. N'a pas de jeûne, rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i. On comprend que il faut mettre l'intention avant d'arriver au jour de Ramadan. Est-ce qu'on est obligé de mettre l'intention chaque nuit? L'avis prépondérant est de dire que une seule intention suffit au début du mois, à condition de ne pas l'avoir interrompue. Qui pourrait interrompre son intention? C'est étrange. Bah, par exemple, une femme qui a eu ses menstrues. Elle ne jeûne pas. Pour reprendre son jeûne après sa pureté, sa purification, elle devra remettre une intention. Qui, par exemple? Le voyageur qui s'est permis de rompre son jeûne. Quand il voudra reprendre, il devra remettre une intention. Qui d'autre? Le malade qui s'est permis de rompre son jeûne. Une fois qu'il voudra reprendre, il devra remettre une intention. Dans le cas contraire, c'est simplement recommandé de renouveler, de revivifier son intention. Barakallahu fikoum. Passons au point suivant. Rukna as-siyam. Rukna as-siyam, les deux piliers du jeûne. Le jeûne repose sur deux piliers. Le premier, c'est al-imsak 'anil mufattirat. S'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. L'abstention. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Naam. Dans le hadith, yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Il délaisse la nourriture et la boisson pour moi. Là, on a réuni les piliers. Le délaissement et l'intention. Le délaissement et l'intention. Le point suivant. Quels sont les signes qui marquent l'entrée du mois de Ramadan? Chaque année, on assiste à une partie de la communauté qui se retrouve perturbée, indécise, dans le doute. Est-ce que demain on jeûne ou on ne jeûne pas? Dans tel endroit, ils ont annoncé, mais nous, ils n'ont pas annoncé. Que faire? La solution, c'est la science, ikhwat al-iman. La solution, c'est l'apprentissage. Le remède de l'ignorance, c'est la question. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a clairement enseigné 2 signes. Il n'y a pas de 3e. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous en mentionne 1. Dans la Sunna, on nous le mentionne également, et on en ajoute 1. Quel est ceci? Dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهَرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque témoigne du mois, qu'il le jeûne. Donc, le premier signe, c'est la vision de la nouvelle lune du mois de Ramadan. La vision de la nouvelle lune du mois de Ramadan. Dès lors qu'il y a cette vision-là, eh ben, le lendemain, on jeûne. Abdullah ibn Omar a dit, Tara an-nasul hilal. Les gens ont recherché la lune, je l'ai vu. J'ai informé le prophète alayhi salatu wa sallam de ma vision. Il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Donc, si une personne musulmane, musulmane, fiable, avec une bonne vue, naam, a vu la lune et informe de cela, on est obligé de jeûner. Et à la base, il faut deux témoins. Mais là, ce n'est pas un témoignage. Là, c'est une information. C'est pour ça qu'on accepte, même si c'est une seule personne, et même si elle n'est pas pubère, on accepte à partir du moment où elle est fiable, musulmane, et qu'elle a une bonne vue. Naam. Barakallah fikoum. Le deuxième signe, si on ne voit pas la lune, on ne doit pas jeûner. Si on ne voit pas la lune, on ne doit pas jeûner et on doit attendre de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. 30 jours. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Soumou li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa'in rubbi alaykum fa'akmilu iddat Sha'ban 30 yawma. Jeûner à sa vision et romper à sa vision. Et si la vue vous est obstruée, alors complétez le mois comme ayant 30 jours. Comme ayant 30 jours. Donc, soit on voit la nouvelle lune, on jeûne, comme ce fut le cas dans le royaume de l'Arabie Saoudite, en Égypte, au Mali, ici et là, en France. Et si on ne voit pas la lune, on ne doit pas jeûner. On doit attendre de compléter 30 jours, comme ce fut le cas dans le royaume du Maroc. Dans le royaume du Maroc. Et chaque pays a sa vision. Chaque pays a sa vision. D'accord? Donc, si on a vu la lune, on jeûne. Si on n'a pas vu la lune, on ne jeûne pas. Et vu qu'on jeûne le lendemain, c'est que le mois de Ramadan est rentré. Donc, on commence la prière de Tarawih. Et le lendemain, on jeûne. Tout comme lorsqu'on reverra la lune, on va arrêter de jeûner. On ne va pas jeûner le lendemain et on va arrêter le Tarawih. Taïb. La preuve que chaque pays a sa vision, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans lequel l'imam muslim, lorsque il fut envoyé au Sham, naam, et qu'il n'avait pas vu, ou plutôt, naam, Abdullah ibn Abbas est arrivé de Médine. À Médine, on n'avait pas vu la lune. Il arrivait au Sham, où il y avait Muawiyah radiallahu anhu. Où il y avait Muawiyah radiallahu anhu. Et il ne jeûnait pas. Alors les gens lui ont dit, mais tu ne jeûnes pas? Il a dit non. Nous n'avons pas vu la lune. Ils lui ont dit, mais tu ne te contentes pas de la vision de Muawiyah? Il a dit non. Et écoutez, c'est hakada amarana rasulullah. C'est ainsi que nous a ordonné le messager d'Allah. Ça prouve que c'est ça la sunna. Ça prouve que c'est ça la sunna. Barakallahu fikum. Donc, eux avaient vu la lune le vendredi. Alors qu'à Médine, la lune avait été vue, a été vue samedi. Voyez. Celui qui a commencé un jeûne dans un pays puis voyage va se baser sur quelle vision? Il va se baser sur le pays dans lequel il est. Rasulallah m'a dit, le jour du jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. Le jour du fitr, c'est le jour où vous faites le fitr. Donc, si tu as commencé ton jeûne dans un pays, puis que tu voyages, tu te retrouves à Mecca, le jour du Eid, même si tu as jeûné que 29 jours, tu fais l'Eid avec eux. Et cela suffit. D'accord? Si tu as voyagé de Mecca et que tu pars au Maroc, tu pars faire ta Umrah et tu rentres, et qu'au Maroc, ils font l'Eid un jour après, et que ça te fait 30 jours, eh ben tu jeûnes encore, et tu fais l'Eid avec eux. D'accord? Imaginons un pays où ils ont vu la lune plus tôt. Naam. Ensuite, ils vont au Maroc, et au Maroc, ils ont vu la lune plus tôt aussi. Que va-t-il se produire? Il part d'un pays où ils ont vu la lune plus tard. Il part d'un pays où ils ont vu la lune le lendemain. D'accord? Ils ont vu la lune vendredi. Il voyage dans un pays où ils ont vu la lune. Samedi. Que va-t-il se passer si le pays dans lequel il se retrouve ne complète pas le mois et jeûne que 29 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Je répète, ils partent d'un pays où ils ont vu la lune tardivement, vers un pays où ils ont vu la lune plus tôt. Donc eux, ils ont un jour de moins que lui, n'est-ce pas? Mais ajoutez à cela que eux ont vu la lune plus tôt pour le fitr, pour l'Eid. Que se passera-t-il? Ils auront 28 jours. Eux auront 29 jours, mais lui aura 28 jours. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il va faire le fitr avec eux, Eid al-Fitr avec eux, parce qu'il n'a le jeûné le jour du Eid, c'est haram. Puis il va rajouter un jour le lendemain du Eid al-Fitr. Le premier jour de Shawwal, il va le jeûner. Ainsi, il aura jeûné un mois. Parce que un mois ne peut pas être moins de 28 jours. Moins que 28 jours. Donc il rajoute un jour, ça lui fait 29 jours. Il a jeûné le mois de Ramadan. Le dernier cas, il a commencé un jour avant, et le pays dans lequel il va, ils finissent un jour après. Que se passe-t-il? Lui, il a un jour de plus qu'eux. Et quand elle arrive, eux, ils font un jour de plus. Qu'est-ce qui se passera? Il se retrouvera avec 30 jours de jeûne la veille du Yani, et eux, Naam, la veille. Que se passera-t-il? S'il jeûne avec eux le dernier jour de jeûne, ça lui fait 31. Et l'Eid, ce sera le jour d'après. Les savants ont dit, ils jeûnent quand même avec eux. Ils jeûnent quand même avec eux. Ce jour-là lui est sunnah pour lui. Et il fait l'Eid avec eux. Et ce jour qu'il ajoute n'est pas problématique. Il n'est pas problématique. Voici quelques règles du jeûne. Naam. Et demain, inshallah ta'ala, on finira les règles les plus importantes relatives au jeûne du mois de Ramadan, notamment les annulatifs du jeûne, celui qui mange ou boit sans faire exprès, quelles sont les choses recommandées, les choses interdites, et qu'est-ce qu'on conseille à la communauté de faire durant la journée du mois de Ramadan. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وتلاوتنا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته